France Inter.
Architecte et curatrice née à Beyrouth, Alaouardé aurait voulu être musicienne, mais étudie à l'École spéciale d'architecture de Paris, où elle suit les enseignements de son futur mentor, le philosophe et architecte Paul Virilio. Elle fréquente ensuite les ateliers de Bernard Tchoumi, du scénographe et peintre Richard Peduzzi, et de son ancien professeur Jean Nouvel, dont elle rejoindra l'étude. Ensemble, ils collaboreront sur de nombreux projets dans le monde entier, comme le musée du Louvre à Abu Dhabi. Mais sur la frise chronologique que je condense, notre invité a déjà fondé sa propre agence avant que Nouvel soit choisie pour la conception de l'illustre musée des Émirats Arabes Unis qu'elle réalisera avec lui. Il mettait donc une marque de feutre à cet endroit. Depuis, celle qui se définit comme une architecte de l'ombre a développé de nombreux projets d'envergure de son côté, comme par exemple la Tour Mirabeau à Marseille. Alaouardé aime le silence, mais a tout de même fait l'effort de venir nous raconter le moment de rupture dans sa carrière qu'elle vit en ce moment, l'occasion de passer en revue son parcours, ses collaborations avec la poétesse Etel Adnan ou encore avec la photographe Nan Goldin, dont elle a imaginé la mise en espace de l'exposition itinérante This Will Not End Well, qui fera bientôt escale au Grand Palais à Paris et dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Alaouardé.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Eh bien, c'est Martha Argerich au théâtre des Champs-Élysées il y a quelques semaines.
Ah, vous avez eu la chance d'aller la voir.
J'ai eu l'immense plaisir de l'écouter et de la voir.
Qu'est-ce qu'elle jouait ce soir-là ?
Elle jouait le triple concerto de Beethoven avec les frères Capuçon à l'occasion des 50 ans de Renaud Capuçon.
Il se peut qu'on l'entende tout à l'heure jouer quelque chose, mais je ne vous en dis pas plus. Vous vous qualifiez d'architecte de l'ombre et vous dites aussi que l'ombre, c'est votre matériau de prédilection.
Oui, c'est vrai, j'aime architecturer des ombres. Et c'est vrai que je préfère l'ombre à la lumière et tous les projets sur lesquels je travaille sont basés sur l'ombre et la lumière. C'est vrai, si je réfléchis à tous les sujets, enfin vous citiez le Mirabeau Marseille, c'est un bâtiment évidemment qui parle de musique, qui est inspiré par la musique, mais qui joue beaucoup avec les ombres, des nuages, du temps qui passe et des changements de couleurs.
Là, vous parlez de la musique et c'est très important chez vous, dans votre œuvre et dans votre vie. Et pour la Tour Mirabeau, vous l'avez sous-titré « Le contrepoint ». Et dans le projet, dans votre portfolio, il y a même des partitions de musique.
Oui, c'est vrai. Je me suis beaucoup inspirée de la musique. Alors, c'est vrai que c'est un bâtiment... Alors vous dites tour, mais moi je l'appelle bâtiment parce que c'est tout sauf une tour.
Pardon, non, mais vous avez un meilleur vocabulaire
sens
que moi. Au
sens à la fois marin et terrien du terme, c'est un bâtiment qui se trouve d'ailleurs entre deux tours, mais je voulais surtout pas qu'il soit une tour de plus dans ce paysage maritime de Marseille. Et les façades sont composées, ou en tout cas et rythmées comme de la musique, à la fois sur le rythme et sur l'harmonie. Donc c'est extrêmement travailler à ce niveau-là, et oui, comme le contrepoint.
Dans quelques instants, on parlera de votre œuvre A Roof for Silence, pas tout de suite. Vous aimez l'ombre, Alaouardé, vous préférez le vide au plein, et le silence, et ça m'a fait penser au silence en musique.
Oui, le silence en musique, c'est comme le vide dans l'espace, et c'est vrai que les vides m'intéressent particulièrement. J'aime construire des vides. Je commence toujours par me poser la question de quel est le plus grand vide que je peux faire, et dans un lieu, non pas pour ne pas construire, mais au contraire pour construire autour. Je pense que c'est une vraie nécessité aujourd'hui dans la ville, et ou même dans les espaces. Je parle de jardin. Je parle des cours, je parle des passages.
À quoi est-ce que ça ressemble chez vous et comment est-ce éclairé ?
C'est assez vide. Et c'est éclairé naturellement avec très peu de lumière artificielle.
Ah bon ?
Oui.
Et donc le soir, c'est assez sombre.
Ben le soir, je dors les fenêtres ouvertes. J'habite sur une petite place où il y a un réverbère et donc il y a toujours une lumière qui passe. Mais j'ai toujours dormi avec de la lumière.
C'est vrai.
Oui, avec les rideaux ouverts et de la lumière. Oui. Et j'aime me lever avec la lumière naturelle qui rentre dans les lieux.
Est-ce que vous regardez votre ombre ou les ombres des autres êtres ?
Je ne pense pas, je ne sais pas. Peut-être que je la vois sans les regarder, mais je regarde beaucoup les ombres dans la ville, dans les bâtiments, dans les rues, oui.
Vous avez fait la scénographie de l'exposition Visible, Invisible à Versailles avec plusieurs photographes. Est-ce que vous auriez aimé être invisible puisque vous êtes pour le fait de voir un bâtiment et de ne pas savoir de ne pas le signer ?
C'est vrai que quand je me définissais comme une architecte de l'ombre, bon, c'est vrai que j'ai travaillé à l'ombre d'un grand architecte et contrairement à ce qu'on peut imaginer, je me suis toujours très bien sentie dans cet anonymat.
Jean Nouvel.
Oui, Jean Nouvel, pour le Louvre Abu Dhabi en particulier. Et oui, je suis pas à l'aise quand je suis visible, donc c'est vrai que j'aime bien disparaître.
Bon, il n'y a pas d'image à la radio, c'est déjà ça.
Oui.
Alors, il y a une question que je me pose, c'est puisque vous aimez le vide, l'ombre, la discrétion, est-ce qu'il y a un paysage ou un bâtiment à l'opposé de ce qu'on vient de décrire que vous aimez beaucoup ? Quelque chose de presque tape à l'œil, très visible ?
Écoutez, très visible, enfin celui que j'aime, là j'y pense parce que je suis passée devant tout à l'heure, c'est un bâtiment de Jean Nouvel qui est la Fondation Cartier, qui est aujourd'hui abandonnée, mais c'est un bâtiment qui est à la fois visible et invisible, et que je trouve formidable justement dans cette nature ambiguë.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
À la Wardée, vous êtes née à Beyrouth, vous aviez une dizaine d'années lorsque la guerre a éclaté. Je crois que vous aviez une vingtaine d'années quand vous êtes venue en France. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?
Écoutez, c'est une période assez étrange. La guerre, c'était quelque chose qui a beaucoup rythmé notre vie là-bas, avec tout ce qu'il y a de terrible, mais aussi des moments où on était très... on vivait tellement, de façon tellement dense, parce qu'on pensait à chaque fois qu'il allait arriver quelque chose. Donc, des moments d'amitié intense, quand on était rassemblés dans des abris de peur. Aussi, quand on traversait des régions... Voilà, des amis que j'ai perdus, mon père qui est mort de la guerre d'ailleurs, aussi. Donc oui, c'est le bruit de la guerre, mais c'est le moment aussi où j'écoutais beaucoup de musique. Donc c'est vrai que voilà, je me suis beaucoup réfugiée dans la musique pendant la guerre.
Est-ce que vous pensez que les bruits de la guerre ont fait qu'aujourd'hui vous êtes si sensible et vous recherchez tant le silence ?
Oui, peut-être, je ne sais pas.
Vous habitez entre la France et le Liban.
Oui.
Comment ça se passe aujourd'hui au Liban ?
Écoutez, là, c'est vrai que je suis dans une phase où j'ai pris une grande décision, effectivement, d'aller plus souvent au Liban. Et alors que le Liban est encore un pays fragile, où la guerre ne s'est pas arrêtée, et c'est une succession de guerres dans ce pays. J'ai une maison dans le sud du Liban, à côté d'un pays hostile, où il se passe des choses atroces. Et c'est à la fois cette proximité et ce... qui est là-bas, et puis une beauté, une lumière qui m'a toujours attirée dans ce pays, mais aussi des amis qui sont morts et d'autres qui sont vivants, que je vais visiter, et puis une nature, une maison que j'aime. Voilà, donc j'ai un rapport très très fort avec ce pays, oui.
Qu'est-ce qui vous manque le plus du Liban quand vous êtes en France ?
Oh ben, la lumière, la mer, l'horizon. C'est ce qui me manque le plus. Donc la première chose que je vais voir, c'est les couchers de soleil et cette mer qui me manque, oui, énormément.
Il y a une question que je pose souvent aux invités, c'est je leur demande quel est leur rapport à la mort. Et quand on a vécu la guerre, j'imagine qu'il est modifié.
Oui, sûrement. Enfin, j'ai un rapport très familier, on va dire, avec la mort. C'est mes morts sont toujours vivants et je vis beaucoup avec avec les morts. Comme des projets d'ailleurs d'architecture qui sont un peu dont on peut penser qu'ils sont morts, mais qui au fond qui ne sont jamais morts. Donc on est habité par toutes ces rencontres qu'on a faites à la fois avec des êtres ou des arbres, des monuments, voilà.
Paul Virilio, est-ce qu'il y aurait une pensée du bunker ? Je crois que il y a une pensée de la crypte, c'est-à-dire du caché. L'architecture, c'est l'art de receler, c'est-à-dire de cacher. L'architecture, c'est toujours un peu un coffre-fort. Les premières architectures sont funéraires. Je parle d'architecture construite. Elles sont funéraires, donc elles cachent un corps. Et puis elles cachent un trésor, ce sont les pyramides. Les pyramides sont le modèle de l'architecture cryptique. On y cache à la fois le corps du pharaon et à la fois ses trésors. D'où les voleurs qui essaient de pénétrer dans le labyrinthe à trois dimensions de la pyramide. Donc le bunker ne fait que prolonger cette pensée cryptique, cette pensée cachée, cette pensée du codage et du décodage.
À la ORD, à Paris, vous avez suivi les enseignements de l'architecte et philosophe Paul Virilio, qu'on entend en 94 sur France Culture, et vous dites que son atelier était un lieu d'éveil des consciences et de révélation au sens profondément mystique. Qu'entendez-vous par là ?
Paul Virilio, vous l'avez entendu, enfin, je suis très émue d'entendre à nouveau sa voix. Alors, j'étais à l'école spéciale d'architecture, alors, je dis toujours j'ai étudié entre un cèdre et un cimetière, parce que celui de la Fondation, qui est le futur. Fondation Cartier et le cimetière, mais Paul Virilio parlait de beaucoup plus que d'architecture. Donc c'est vrai que c'était quelqu'un qui parlait à la fois de religion, de physique, d'astrophysique, de culture, de tout. Et c'est vrai que c'était là, on entrait dans une intelligence des choses et des idées qui étaient absolument extraordinaires. Et il nous révélait individuellement à nous-mêmes, en fait. Et il nous a appris à penser. Voilà.
Ah oui, c'est extraordinaire de pouvoir dire ça de quelqu'un. Vous mentionnez dans un texte que vous avez écrit sur lui son exercice d'atelier trilogique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, c'était une façon, il abordait un projet sous la forme d'un triptyque où il fallait, sur un sujet, commencer par faire un mauvais projet, ensuite un bon projet et puis un projet au-delà. Alors, c'était trois phases et bien sûr, c'était une question posée sur la nature du projet et cette frontière qui n'était pas tout à fait claire entre ce qui était bon et pas bon.
Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un projet au-delà ?
Eh ben, c'est un projet qui dépasse justement tous les codes de la pensée d'une certaine façon. On ne peut pas dire c'est beau ou c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, c'est quelque chose qui transcende la pensée ou en tout cas l'émotion, qui peut provoquer une certaine émotion qui peut même pas se décrire par les mots.
Une des dernières conversations que vous avez eues avec Paul Virilio, puisque vous avez eu la gentillesse de nous envoyer le texte que vous aviez écrit à sa mort en 2018, c'est transapparent.
Oui, c'est un terme qu'il a utilisé en parlant justement de la Fondation Cartier sur la transapparence. Il inventait des mots souvent, et cette question qui a été reprise par Jean Nouvel, ce concept de transapparence, c'est vrai qu'il décrivait ce terme-là comme justement cette ambiguïté entre la transparence, l'apparence, la disparition.
Beaucoup d'architectes se revendiquent artistes. Ma conviction, en fait, est plus complexe que ça. Je pense qu'un architecte ne peut pas s'abriter derrière sa condition d'artiste pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que l'architecture est un art utile. On a d'abord un rôle social et on doit effectivement investir de l'argent au bon endroit et faire en sorte que ça résiste, que ça défie le temps. Et bon, tout ça, c'est notre responsabilité. Donc, en fait, l'architecture est un art, c'est sûr, mais c'est aux autres de déterminer qui est artiste. Et de plus en plus, le rôle sociétal de l'architecte n'est plus tenu.
Jean Nouvel sur France Culture en 2020, architecte avec lequel à la Wardé vous avez souvent collaboré, notamment sur le Louvre à Abu Dhabi, musée pour lequel vous avez dirigé le projet de sa conception à sa livraison en 2017. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça se passe concrètement des premiers croquis aux inspirations et aux chantiers ? Parce que c'est fou, je veux dire, il faut de multiples savoirs pour un projet d'une telle envergure.
Surtout aussi une équipe. Moi, je dis pour imaginer cela que c'est comme une orchestration. Jean Nouvel a conçu ce bâtiment, il l'a écrit, il l'a décrit, il en est l'auteur. Et puis, moi, j'ai mis en musique, on va dire ça. Et évidemment, pas toute seule, parce qu'une des premières choses qu'il faut faire, c'est justement savoir bien s'entourer. Donc déjà de choisir à la fois les bonnes personnes, mais surtout de bien comprendre aussi les idées, les projets. Et voilà, donc oui, c'est une aventure qui a duré une quinzaine d'années, enfin 10 ans jusqu'à ce que ça soit construit et au-delà, et qui a, avec des talents multiples, je le dis bien parce que c'est comme au cinéma, il y a des experts de toutes sortes qu'il a fallu identifier, trouver, interpréter. Alors Jean Nouvel aussi a décrit les choses beaucoup avec des mots, la pluie de lumière, voilà, donc comment rendre ça possible, comment mettre toutes ces choses en musique, ça a été une grande aventure. Et puis évidemment la réalisation, je n'en parle pas, parce que ça a été un projet assez pharaonique, très compliqué à construire, mais voilà, grâce à ses équipes et aussi à ses entreprises, parce qu'on les cite moins, mais ils sont, et on les remercie souvent pas assez, qui ont réussi à faire que ce chef-d'œuvre prenne vie.
À un moment, dans une interview, vous parliez de l'Institut du Monde Arabe et de Jean Nouvel, en disant qu'il s'intéressait au thème de la géométrie et de la lumière, qui sont au centre de la culture arabe. Et puis, pour le Louvre à Abu Dhabi, on le décrit parfois comme un scarabée de 8600 m² posé sur la plage, un dôme de 180 mètres de diamètre avec des moucharabées d'acier et d'aluminium. Enfin, moi, ça me fait rêver, vous parlez de musique, mais quand je lis 7850 étoiles sur la coupole, un sol en pierre de luzerne grise venue de Turin, c'est des images aussi qui apparaissent. Qui décide de cela? Qui décide des matériaux? Qui dessine la coupole? Qui décide qu'il y aura 7850 étoiles?
Enfin, il n'y a pas une personne. Évidemment, Jean Nouvel, encore une fois, est à l'origine de ce bâtiment. La géométrie et lumière, effectivement, ce sont les deux mots-clés de l'architecture arabe qui ont guidé à la fois l'Institut du Monde Arabe, et 30 ans plus tard, le Louvre à Abu Dhabi, ça parle aussi de géométrie et de lumière. Et ce dôme, oui, le scarabée, c'est plus une image lourde, mais c'est l'inverse. En fait, c'est une succession de 8 couches qui, effectivement, sont composés de 7000 étoiles et qui, dans leur superposition, vont créer avec cet effet cinétique, cette pluie de lumière. Alors oui, évidemment, il faut à un moment donné le construire, mais c'est plein de recherches, de tests, à la fois empiriques, avec des maquettes et de façon très, très artisanale dans nos ateliers, et des outils extrêmement sophistiqués. C'est un bâtiment qui n'aurait jamais pu être construit 10 ans plus tôt. Des algorithmes qui ont été inventé spécialement pour pouvoir jouer avec ce dosage de la lumière, cette lumière qui a été dosée mais au luxe près, parce qu'il fallait effectivement qu'il y ait un confort sous cette coupole pour les gens qui s'y promènent. Voilà, bon, encore une fois, avec l'expertise multiple, il n'y a pas une personne, il y a des experts dont on sait tous, dont on s'est entouré pour pouvoir décider et faire en sorte que cette magie arrive. Jean Nouvel aime bien employer cette expression de l'esthétique du miracle. Et donc voilà, ce dôme qui effectivement est à la fois très lourd puisqu'il pèse 7000 tonnes et on a l'impression qu'il flotte, on ne sait pas comment il est tenu.
Une tonne par étoile.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
À Beyrouth, dans ce bâtiment anonyme attenant aux locaux de l'UNESCO, se loge un trésor en péril. Sculptures, œuvres sur papier et peintures, autour de 1500 pièces gisent dans le noir par 35 degrés Celsius et une humidité supérieure à 70%. L'État libanais n'a plus les moyens financiers de maintenir ces œuvres à une température adaptée à leur préservation. Juliana Khalaf, co-directrice du BEMA, le musée d'art de Beyrouth, nous guide à l'intérieur d'une véritable caverne d'Ali Baba.
Si ces œuvres restent dans ces conditions pareilles, il y a un risque très grave qu'on perde ce dialogue, ces exemples de l'histoire de l'art au Liban et ce patrimoine.
On entend le journal de Mohamed Kassi sur TV5 Monde en 2025. À la Wardé, on va parler d'un sujet qui peut-être est un peu douloureux, mais vous nous avez aussi envoyé un texte à ce sujet, et vous avez publié un article dans L'Orient Le Jour sur votre déception d'avoir été mise à l'écart sans explication en 2018 du projet du BEMA, Beirut Museum of Art, le musée d'art moderne et contemporain de Beyrouth, puisque c'est vous qui deviez le faire.
Oui, c'est moi qui devais le faire.
Vous voulez parler de l'accident selon Paul Virilio ?
Oui, ce qui arrive, c'est le titre d'une grande exposition qu'il a faite. Et effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé comme un accident, sans aucune explication, une immense déception. Un projet justement pour moi très très important. D'ailleurs, j'ai décidé de consacrer mes prochaines années à ce projet, à le faire exister.
Sous une autre forme.
Sous une autre forme. Mais oui, je parlais de la nécessité du vide dans la ville. J'ai commencé sur ce terrain qui était un terrain très important, un emplacement important sur la place du musée, par construire un jardin et un musée qui se développe autour de ce jardin. Ça s'appelle le puits et le campanile. Donc c'est un puits et un campanile. Il se fait que Beyrouth, dans son étymologie arabe, c'est le pluriel de bir. Bir, c'est le puits. Et donc, voilà, c'est un projet très béroutin, on va dire. Et voilà, c'est le premier geste qui est de creuser, de trouver de l'eau, avec cette eau, de faire un jardin. Et puis, voilà, il y a une première rencontre, une traversée pour arriver à ce bâtiment par ce jardin. Et je viens marquer ce territoire, qui est un territoire de l'art, par un signe vertical, voilà, qui est un campanile. Voilà, ça, c'est mon projet qui a fait l'objet d'un concours, qui a remporté ce concours et sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et pour une raison toujours inconnue qui m'a été repris. Voilà. Donc, je ne sais pas, je n'ai aucune nouvelle de ce musée. Je ne sais pas, évidemment, il y a eu beaucoup de turbulences dans le pays depuis. Il y a eu l'explosion du port en 2020 et puis la crise économique surtout. Donc, je ne sais pas ce que va devenir ce site et je le trouve bien vide comme il est. J'espère qu'on pourra y construire au moins un jardin parce que on a beaucoup fait disparaître les jardins dans la ville de Beyrouth et il manque à la ville.
Vous aviez fait appel sur ce projet à la peintre et poétesse Etel Adnan. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos collaborations et de votre rencontre ?
Oui, j'étais très proche d'Etel Adnan. Et effectivement, c'est quelqu'un que je fréquentais avec amicalement. Mais au moment où j'ai travaillé sur ce projet, j'ai fait appel à plusieurs artistes. Et en particulier, je lui avais demandé de réfléchir à une pièce qui serait une œuvre qu'on pourrait mettre justement dans le jardin. Donc, parce que je trouve que l'art devrait être plus présent dans la ville. Et je voulais que ce musée, d'ailleurs, qui n'a pas de pour d'entrée, que encore une fois c'est un musée que n'importe qui peut traverser, public, donc sans dissuasion on va dire, qu'elle puisse faire une œuvre à l'extérieur. Et donc elle avait travaillé sur une fresque de 4 grandes céramiques que j'avais prévu de mettre sur la façade extérieure donnant sur le jardin.
Pour moi, il ne s'agit pas de faire des belles sculptures ou des belles peintures ou de m'exprimer mon affectivité, ma personnalité, à travers la peinture ou à travers l'art. Pour moi, l'art n'est qu'un moyen de tâcher de savoir comme je vois le monde extérieur. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non, des êtres vivants. Comme s'ils devaient faire, à chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Ça, je ressens chaque fois que je travaille d'après nature.
À la Wardé, on vient d'évoquer le musée de Beyrouth, qui est un projet mis à mort. Là, on va parler d'un projet mort-né, ce sont vos mots. C'est Albert Giacometti qu'on entend sur le RTF en 63. Vous deviez aussi faire le projet du musée Giacometti. Ou est-ce que vous avez plus de nouvelles de la part de ce musée que de la part de celui du Liban?
Oui, alors lui, il y a des nouvelles, mais alors, j'ai envie de dire, je suis un peu traumatisée des concours. Moi, je suis pas faite pour les concours, voilà. Alors, on fait des concours, on les gagne et c'est formidable, on les perd, on est malheureux. Le pire, c'est de perdre contre un projet qu'on trouve pas bien. Mais alors, celui-là, c'est un concours qu'on a fait avec la Fondation Giacometti. Et là, c'est encore pire que de perdre, c'est qu'on n'a même pas pu le présenter parce qu'on était associé avec un promoteur qui a répondu, on va dire, hors concours. Et donc, on a été éliminé avec la Fondation Giacometti avant même de pouvoir le présenter. Ce qui a été, pour moi, enfin pour nous tous, une expérience absolument atroce. Donc, le projet a été annulé. C'était sur le site de Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, donc dans le quartier, on va dire, de Giacometti, alors avec toutes les bonnes raisons de le faire là-bas, et dans ce bâtiment, avec toute son histoire, c'était un très beau projet. Aujourd'hui, la fondation Giacometti va se faire ailleurs, et dans Paris, et avec d'autres architectes. Et donc, mais oui, c'est vrai que c'est une autre déception. Ouais.
Alors, qu'en pensez-vous ?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président ?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense !
Boum ! Qu'avez-vous construit dans votre carrière ?
Ma maison et 4 églises.
Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien.
Et que pensez-vous des architectes français ?
Je le trouve inhibé. Je veux des nuages qui flottent.
Je vous avais indiqué que c'était impossible.
On a toujours le choix.
Extrait du film « L'inconnu de la Grande Arche » de Stéphane Desmoustiers sur un architecte idéaliste ou plutôt peut-être intègre, à voir, qui a quitté un projet puisqu'on l'empêchait de le réaliser comme il le voulait. À la Wardé, en répondant à notre invitation, vous avez indiqué vous trouver dans un moment de transition une logique de disparition pour deux raisons. Alors, l'une des deux raisons, c'est la colère, le souhait de travailler avec plus de liberté, plus d'intégrité. Et là, vous nous avez décrit quelques situations qu'on peut qualifier d'assez injustes. Et la seconde raison, c'est parce que vous vous étiez toujours dit que vous arrêteriez l'architecture à 50 ans, parce que vous êtes flûtiste par ailleurs.
Oui, alors maintenant je dis je me suis trompée de 10 ans puisque je viens de fêter mes 60 ans. Mais de façon imagée, je dis effectivement que je suis passée de l'état solide à l'état liquide, voire même gazeux. Alors il y a un phénomène en physique qui est dans la matière, quand une matière passe de l'état solide à l'état gazeux, qui s'appelle la sublimation. Oui, j'aime beaucoup ce mot, donc je suis en état de sublimation. Alors, avec des turbulences, tout ça se fait en vrai, en physique, par des turbulences atmosphériques. Voilà. Bon, moi, j'ai vécu ces turbulences à un autre niveau. Mais oui, c'est la liberté, évidemment, la fluidité. Et c'est un choix. C'est vrai que c'est un choix que j'ai fait. Et avec l'intention de pouvoir, travailler dans la plus grande liberté. Oui, sur des sujets qui m'intéressent, avec des gens qui m'intéresse, avec des gens qui ont envie de travailler avec moi et pas par obligation. Voilà. Donc je suis très très heureuse de cette transformation. Voilà. Alors bon, je dis un peu, c'est vrai, il y a la colère, je dis que je rentre un peu en résistance comme ça, comme on entre en clandestinité, voilà, comme des choses qu'on a envie de combattre ou des idées, mais c'est surtout l'envie de pouvoir sans contrainte travailler sur des sujets qui me passionnent.
Est-ce que vous avez peur ?
Oui, souvent, oui. Heureusement que j'ai peur.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. But can't you stop?
La Wardée, je suis très contente parce que j'adore les Doors et vous aussi. Et vous avez choisi pour l'émission Break On Through des Doors.
Oui, alors c'est leur première chanson. C'est une chanson qui a quasiment mon âge. Et Break On Through, évidemment, ça tombe bien parce que c'est précisément là, je suis en train de passer de l'autre côté. Et Jim Morrison, oui, les Doors, mais comme beaucoup de groupes, mais lui, alors je connais par cœur toutes leurs chansons et j'aime beaucoup. Donc oui. C'est ce passage, c'est cette vie nouvelle vers laquelle je suis en train de passer et qui m'enthousiasme énormément.
Partita pour piano numéro 2 de Bach par Martha Argerich. Vous l'avez entendu en concert il n'y a pas longtemps à la Wardée et vous adorez cette pianiste et Bach, ça tombe bien. Vous écoutez beaucoup de musique classique ?
Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Mais alors ça, c'est sublimissime. Je peux écouter ça en boucle et je l'écoute. Surtout, vous avez choisi un extrait extraordinaire.
Bah, grâce à vous. Oui. Grâce à nous aussi, grâce à Mac.
Je l'utilise, je l'ai beaucoup, j'adore ce morceau.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir.
Ophélie de Rimbaud par Jean Topard en 1956. Je crois que c'est un poète que vous affectionnez à la Wardée, Rimbaud.
Oui, je le lis, je le relis, il est à côté de mon lit.
Il y a une musicalité
immense,
folle.
Immense, immense poète.
Quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans, ma mère a dû acheter le dictionnaire Larousse. Et je lisais le dictionnaire. Je me rappelle, il y avait une photo de Beethoven. Quelque part, il avait les cheveux bouclés, et je regardais Beethoven et son opéra Fidelio, qui veut dire fidèle, qui me fascinait. Et dans ce Larousse, il y avait une double page, tous les petits drapeaux du monde, colorés. Dieu sait, j'ai dû regarder ces deux pages. Et parfois, quand je fais une peinture aujourd'hui, très rarement, je me dis, mais est-ce que ma peinture ressemble à ces petits carrés, rectangles, colorés? Et vous voyez, quand il n'y a pas trop de choses, vous observez encore plus le peu qu'il y a.
J'imagine que vous êtes d'accord à la Wardée avec Etel Adnan, qui est interviewée en 2018 par le site BookWiki. Vous avez fait avec elle, pour le pavillon libanais de la Biennale d'architecture de Venise en 2020, l'installation A Roof for Silence, un toit pour le silence, conçu à partir d'une de ses œuvres. Et cette œuvre sera exposée au Musée national de Beyrouth fin novembre.
Oui, exactement. C'est un projet que j'avais fait. Effectivement, j'ai assisté à la naissance de cette œuvre d'Etel Adnan qui s'appelle Hommage à la déesse de l'Olivier. Et c'est une série de tondos, de 16 tondos, qu'elle a commencé à peindre. Et puis régulièrement, elle m'appelait en me disant, voilà, viens voir, j'en ai un nouveau, etc. Et à la fin, une fois qu'elle a fini, elle m'a dit, voilà, c'est fini, j'ai terminé, il y en avait 16. Et j'ai tout de suite imaginé un bâtiment qui serait conçu à partir de cet ensemble, de cette œuvre. Et j'ai rencontré, par hasard, on va dire, pourtant je viens de ce pays, au Liban, mais je ne les connaissais pas, un ensemble d'oliviers qui, par pure coïncidence, était également au nombre de 16. Alors, Virilio parlait d'architecture cryptique, mais alors ces oliviers, dès que je les ai rencontrés, parce que j'ai pris l'avion tout de suite, j'ai vu des images et j'ai voulu les voir, et j'ai tout de suite pensé à Virilio en les voyant, avec leurs creux et leurs et les espaces, enfin une sorte de métaphore de l'espace. Et mon projet est sur ces deux, à la fois sur cette œuvre d'Etel Adnan, mais c'est sur aussi ces oliviers. Et je suis très heureuse qu'elle puisse être montrée enfin au Liban.
Qu'est-ce qu'un tondeau ?
Un tondeau, c'est une forme ronde d'un tableau. Voilà.
Alors, en parlant de Paul Virilio, vous montrez aussi dans ce projet des peintures anti-formes, signées de sa main. Qu'est-ce que c'est que
ça ? Oui, alors justement, donc je découvre ces arbres millénaires, multimillénaires. On dit qu'ils sont contemporains de l'Arche de Noé, parce que la colombe qui serait venue annoncer la fin du déluge serait venue de ces arbres. Bon, c'est une légende, évidemment, mais voilà. Et chacun d'eux est immense. On peut rentrer à l'intérieur, et quand j'ai vu ces creux dans ces oliviers, j'ai tout de suite pensé aux peintures anti-formes de Virilio, qui effectivement peu de gens connaissent, ou très peu, parce qu'ils sont rentrés dans la collection du Centre Pompidou. Ils n'ont jamais été vraiment exposés, mais je les avais vus chez Paul quand je le voyais. Et en fait, ce sont des tableaux où il peignait le vide entre les objets. Il posait des objets, il peignait le vide. Et voilà, donc ça m'a beaucoup intéressée. C'était une biennale d'architecture, évidemment, et donc je parlais à la fois de peinture, de poésie, comme on disait, de silence. Le projet s'appelle A Roof for Silence, et comme ce poème en peinture, parce que Etel est aussi poète, peintre, comme Virilio d'ailleurs, où ils avaient des idées, finalement, une sorte de philosophie, mais ils utilisaient plusieurs façons de l'exprimer, que ce soit par la poésie, par la peinture, par la sculpture, par l'écriture pour Paul, etc. Donc, c'est avec ces différents artistes que j'ai conçu ce pavillon. J'ai appelé aussi Fouad El Houri, qui est un photographe. C'était pas un lapsus, parce qu'il est aussi architecte, et qui a photographié ces oliviers, et également Alain Fléchier, qui a filmé ces oliviers en mouvement. Voilà, donc c'est une installation qui parle du vide, du silence, d'architecture, de poésie et d'art.
Tout à l'heure, vous avez mentionné l'explosion terrible qui a eu lieu sur le port de Beyrouth en août 2020, et je crois qu'il y a des larmes de verre, des débris au sol que vous avez mis dans ce projet.
Oui, l'explosion est arrivée en août 2020, au moment où la biennale était en cours, enfin a été reportée, mais elle devait avoir lieu en 2020. Elle a été reportée à cause du Covid. Et c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui venait d'arriver, et en même temps je voulais pas le faire de façon explicite. Donc j'ai ramené des débris de verre d'un bâtiment. Justement, le maître d'ouvrage pour lequel je travaillais à Marseille, la CMA-CGM, qui a eu son siège social complètement explosé sur le port. Et on a fait venir ces débris de verre que j'ai montré au sol dans ce bâtiment, le Magazzini del Sale à Venise. Il y a eu une installation aussi en verre. Avec un souffleur de verre qui matérialisait à la fois la trace de l'explosion, mais aussi cette transformation vers une forme qui allait être celle de l'arbre, qui allait se transformer en un bâtiment d'acier et de verre que j'ai construit et qui allait abriter et qui abrite l'œuvre d'Etel Adnan.
You're only seeing one side of me.
There's a lot of sides of me. On ne voit qu'une facette de moi-même. Il y en a plusieurs.
I become, you know, for me, photographing is
pour moi,
a form of touching somebody.
La photographie, c'est une
and
façon de toucher quelqu'un.
Pictures of people having sex, for
parfois,
instance,
il y a des photos érotiques de gens qui sont en train de faire l'amour, et c'est érotique pour moi et pour eux.
It's almost like a threesome. with
c'est
me
presque
and the
camera. Un ménage à trois avec moi-même et l'appareil photo.
At this age, it's more,
quand j'avais une vingtaine d'années, c'était plus réel. Maintenant, c'est un peu plus virtuel.
The camera ce que je veux dire me as a photographer
l'appareil photo,
part of the,
moi en tant que photographe, je fais presque partie d'un ménage à trois.
On entend la photographe américaine Nan Goldin sur France Inter en 2003. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, mais tout de même, un petit mot à la Wardé sur l'exposition itinérante This Will Not End Well, qui sera au Grand Palais à Paris à partir du 18 mars et jusqu'au 21 juin, et à la chapelle de la Salpêtrière, parce que vous avez quand même fait la mise en espace et imaginé des pavillons pour cette exposition.
Oui, c'est une exposition d'une photographe, mais de ses films et non pas de ses photos. Et donc, il y a une série de films. Ils ont été à chaque fois, plus ou moins nombreux en fonction des lieux. Ça a commencé à Stockholm, Amsterdam, ensuite Berlin, à Milan, là, en ce moment, mais ça se termine. Et enfin, Paris. Effectivement, j'ai imaginé des bâtiments, des architectures qui étaient conçues, encore une fois, comme la chapelle Rothko, comme à partir des œuvres de Nan Goldin, avec qui j'ai on travaillait très très étroitement avec elle, parce que elles sont toutes issues des œuvres elles-mêmes, ces formes ou ces sensations que j'essaie de provoquer. Donc c'est une série de bâtiments, de petites architectures, de pavillons, je ne sais pas comment on peut les appeler, et qui forment une sorte de chorégraphie dans l'espace du Grand Palais, c'est le salon d'honneur. La chapelle de la Salpêtrière, c'est une réédition d'une installation qui avait eu lieu en 2004. Moi, personnellement, qui m'avait bouleversée à l'époque, et qui est Sister Saint Sensibles, qui est une de ses œuvres triptyques qu'elle a fait sur sa sœur, et qui avait été présentée là-bas, et donc je la présente exactement comme elle a été à l'époque présentée à la chapelle de la Salpêtrière.
Et pour ceux qui ne pourront s'y rendre, il y a un catalogue de l'exposition et aussi une œuvre en 9 tomes sur l'œuvre cinématographique de Nan Goldin. Merci beaucoup à la Wardé.
Merci à vous, Eva Bester.
Ce que vous avez imaginé pour cette exposition est à voir à partir du 18 mars prochain jusqu'au 21 juin au Grand Palais et dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Cette émission a été réalisée avec brio par une super équipe, Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Oliver. Je me suis mélangé les pinceaux dans les verbes. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Alex Olaré ou Ajou Otinois.